La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tondoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Ménardi. Prise de son assurée ce soir par Nasser Moussaï, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Florian Guettet pour parler ensemble de En suspens, c'est au bal. Roman photo, c'est au MUCEM. Et le festival Circulation est au 104. Aïssa Tondoy, comme je viens de le dire, surveille déjà les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos réactions sur les expositions dont nous parlons ce soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le film The Rider de Chloé Zhao, grand prix du Festival du cinéma américain de Deauville et qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Voilà, longtemps que nous n'étions pas allés au bal, dont je rappelle la présentation qu'en avait fait son président fondateur Raymond Depardon, qui disait en 2010 « Nous avons ouvert à Paris un nouveau lieu dédié à l'image document, à l'emplacement d'une ancienne salle de bal derrière la place de Clichy, un lieu d'exposition, de confrontation et d'interrogation des multiples approches possibles du réel, un lieu en résonance avec l'histoire en marche. » Cette définition colle en effet bien, encore une fois, avec l'exposition en cours dont on va parler ce soir, puisque Diane Dufour s'est lancée pour beau défi d'interroger la notion de suspens, mais comment la représenter ? Ainsi, la nuit tant suspendue pour Quatuor à cordes d'Henri Dutilleux, tant suspendue, suspens, suspense, qui va commencer ? Corinne Rondeau. Vous êtes contente, Corinne, tu sais.
Oui. Pour en suspens, bon, bref. Oui, alors...
Est-ce qu'on peut analyser cette introduction ?
Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de commencer... De commencer cette exposition, parce qu'elle me pose un problème dès l'entrée, je dirais.
Ah ben, ça tombe bien, du coup.
Parce que, voilà, en suspens, à cause de tous ces mots, ces synonymes qui viennent alimenter ce mot en suspens de l'exposition. Et effectivement, le mot en suspens, pour moi, relève un peu de l'immobilité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une immobilité. Alors, j'ai vu deux fois l'exposition. J'en ai une perception plus sensible à la deuxième fois, puisqu'en fait, bon, on arrive effectivement en suspens et on a donc un cartel qui nous invite à penser une tentative poétique de choses qui sont indéfinissables, intangibles. Donc, est-ce que le temps s'est arrêté et que les artistes sont là pour nous rappeler quand même justement cette manière de vivre un monde où il n'y a pas d'horizon? C'est un peu l'exposition, la manière dont elle s'ordonne à travers des pièces, de très belles pièces, je dirais de manière assez générale. Donc on est tout de suite dans la première salle, à l'intérieur de justement d'un suspens, en tout cas de quelque chose dont je dirais que les œuvres sont moins en suspens qu'elle m'a mise elle-même en suspens. Du coup, ça donne envie de se dire, bon, quelle est ma place à l'intérieur de ça ? Alors effectivement, on arrive avec une grande installation vidéo dans laquelle l'artiste allemand Sébastien Stupp est allongé dans des flaques d'eau. Il y a 10 performances.
Face contre terre.
Face contre terre.
Face dans la flaque d'eau, plus exactement.
Dans la flaque d'eau, donc, et dans l'espace urbain où passent des passants, évidemment. Et donc il y a ce corps qui nous fait face. Alors ça, je trouve que c'est bien aussi de se dire qu'on est confronté à de la corporalité et aussi de la gravité, puisque le corps est au sol. Et c'est aussi une des questions de notre temps, quoi, entre la dématérialisation et les corps, où passent les corps dans la dématérialisation. Donc ça, c'est important, je trouve. Donc on est vraiment face à un mutisme, parce que cette vidéo ne va pas au-delà de ce qu'elle est, ce qui est, pour une performance, plutôt bien, on va dire. Et puis on a une première fresque, parce qu'il y a trois fresques qui longent les murs. Une fresque qui rapporte en fait toute l'architecture égyptienne du temps de sa date pour justement créer une zone urbaine qui en fait a été laissée au désert. Donc on est avec un corps au sol, muet, immobile, et puis des espaces pour accueillir des corps où il n'y a personne. Et derrière ça, on va avoir alors deux photographies, donc là je suis moins intéressée par ce travail-là, donc du jeune artiste polonais qui a un père mineur et donc il va faire deux photographies de vêtements qui sont dans les salles des pendus, c'est-à-dire c'est là où ils se changent et donc les vêtements sont tirés. Donc c'est très littéral sur
l'idée. Suspendu pour le coup.
Et donc là c'est assez littéral, plus de corps, où peut passer le corps, etc. Et puis là derrière il y a une vidéo, une très belle fiction de je l'ai tellement répété que je l'ai oublié.
Iwaka.
Et justement, qui est la fiction d'une sorte de... Quel est le temps de l'exil pour ceux qui ne sont pas en zone sûre ? Et c'est l'histoire de quelqu'un qui veut passer d'une zone sûre pour être intégré à la zone Schengen. Mais les gens qui sont dans les zones sûres ne peuvent pas être intégrés à la zone Schengen. On les renvoie en zone non sûre. Et donc, en fait, pour essayer d'intégrer un pays Schengen, il doit apprendre une ville de zone non sûre. Et il faut qu'il l'apprenne par cœur comme une cartographie d'un état-major européen occidental.
Pour faire croire qu'il en vient.
Voilà, donc, pour faire croire qu'il en vient. Et donc, c'est écrit avec c'est assez beau, je dirais. Et puis la voix vraiment nous emporte. Et l'image qu'on voit, en fait, c'est une maquette de ville détruite. Et on va la voir du dessus, puisque la vidéo s'appelle « Vue du dessus », notamment. Et donc, c'est ce parcours, ça dure une dizaine de minutes, comme ça, où on est immergé dans un espace qui a été détruit, non pas déserté. Donc, on a désert, destruction, absence de corps, corps muet. Et puis, il y a un humour, quand même. Donc là, moi, je dirais que les points forts, pour moi, parce que je trouve qu'on est dans une exposition où j'ai l'impression qu'on a le moral au degré zéro. Et
là, il n'est pas en suspens, il est tombé.
Voilà, et donc ça me met un peu en colère. Mais par contre, il y a deux éléments. Non, en colère au sens positif du terme. Mais, et c'est ça qui me met en réflexion aussi. Et parce que la fiction et la vidéo de Bastien Nader, qui a justement cette manière de nous faire passer à l'étage inférieur, mais aussi de relever quelque chose, puisqu'en fait, Yann Adair va rentrer dans... c'est l'heure du thé, il est dans une campagne, et puis il va passer sous une boîte avec un bout de bois, il va faire tomber le bois, il va se retrouver soumis à cette boîte. Quoi.
Donc, piège,
C'est le piège qu'on se dresse aussi face aux conventions. Donc il y a cette manière-là, je dirais, humoristique, fictionnelle. Et puis en bas, il y a d'autres mouvements qui se passent, mais c'est vraiment un mouvement de... Pour moi, je trouve qu'on n'a pas le moral quand même, quand on voit ce... C'est ça qui me... J'ai l'impression que les artistes, ils sont un peu dans un anthropocène qui... moi, qui me gêne, j'ai l'impression que la dimension positive des choses... Mais peut-être que l'exposition est là pour penser justement négativement cette question du en suspens. Moi, je préférerais instabilité, parce qu'il y a aussi de l'instabilité dans notre monde, ça veut dire qu'il y a aussi du mouvement. Quoi.
Non, mais là, ce serait une autre exposition, parce que quand je citais Raymond Depardon, un lieu en résonance avec l'histoire en marche, on voit bien que Diane Dufour, son propos, c'est quand même ici de montrer le monde tel qu'il va mal, tel qu'il empêche beaucoup.
On le sait.
Oui, peut-être pas de cette façon-là et pas avec ces regards-là, mais enfin, on est là pour en débattre. Yasmine aussi.
Oui, moi je me suis vraiment sentie de plein pied dans le monde, justement, pas du tout en suspens, mais profondément ancrée par les œuvres qui sont montrées, par les histoires qu'elles racontent, par ce qu'elles disent, profondément ancrée dans ce monde-là, aussi terrible soit-il. Je trouve que c'est une exposition très âpre, dans le sens, pas dans le sens négatif du terme, mais non, vraiment c'est dur, quoi, effectivement, ce que disait Corinne. Et je trouve qu'elle dit aussi pas mal de choses et sur le monde d'aujourd'hui et sur l'art contemporain et la place de l'image dans l'art contemporain aujourd'hui. Les médias qui sont privilégiés aussi pour raconter ce monde-là, quand on utilise l'image, on voit bien que c'est la photo et la vidéo qui sont très très présentes. Et puis cette vision d'un monde effectivement bloqué, il y a aucune légèreté. Si vous voulez, moi, j'ai quand je dis que je suis de plein pied dans ce monde-là, effectivement, par les formes qui ont été choisies par les artistes, les formes qu'ils ont privilégiées, je pense notamment à Hank Wilchot, je dois très mal prononcer son nom, qui avait déjà été récompensé par un prix découverte à Arles, non plus, comme vous dites, La jungle de Calais, on en parle tous les jours à la télévision depuis des années, parce que et là j'ai vraiment eu le sentiment de qu'elle se matérialisait sous mes yeux et de comprendre ce qui se jouait dans cette jungle là c'est-à-dire que pendant 3 ans il a posé sa caméra à intervalles très réguliers au même endroit en choisissant le même angle, le même axe, et il est revenu, et ce qu'on voit c'est l'évolution du paysage dans le temps de manière très très clair, et un éternel recommencement, un no man's land d'abord, puis des tentes qui arrivent, puis des poteaux électriques. De photo en photo, on voit ces éléments se rajouter au paysage, être totalement détruits, et quelques mois passent, et ça recommence, et on revoit des tentes, et on revoit des poteaux. Et là, je trouvais que vraiment on pouvait toucher cette situation du doigt de manière très très claire, et de voir effectivement la vie des réfugiés qui se trouvent dans ces camps, les enjeux politiques aussi, pourquoi à un moment il faut détruire le camp, et ce que ça rapporte justement politiquement à ceux qui prennent ces décisions. Tout d'un coup ça prenait forme. On me parle de reconnaissance faciale par les caméras. Pour moi ça a toujours été quelque chose d'abstrait, et tout d'un coup il y a cette vidéo qui s'appelle, je crois que c'est Sense Face, oui c'est ça, une vidéo, alors là c'est même pas une mise en scène, c'est un logiciel mis en place par les Chinois qui permet la reconnaissance faciale et qui vise à, donc qu'on trouve partout en Chine, et tout d'un coup c'est vraiment 1984, Big Brother qui se matérialise sous nos yeux, on voit que c'est une réalité, alors que pour nous ici c'est encore quelque chose, parce qu'il reconnaît en très peu de temps les passants, et tout d'un coup il y a toute la fiche des passants qui toutes les informations, toutes les données sur ces passants qui apparaissent. C'est assez flippant, et c'est ça en dit tout d'un coup, voilà, c'est ces réalités là. Il y a une autre vidéo, je crois que c'est Mélanie Pavy qui est à Fukushima. C'est des robots qui descendent à l'intérieur du réacteur, qui ont une durée de vie, je crois, de 2 minutes, et qui filment l'intérieur du réacteur et qui s'arrêtent très longuement devant les cadavres des autres robots qui sont passés avant eux et qui tout d'un coup meurent. Et on voit la mort du robot en direct avec un flash blanc, et puis paf, le robot il est mort à côté de... C'est ces formes-là qui tout d'un coup nous font prendre conscience de réalité qui, moi, bien sûr j'en ai entendu parler, mais me paraissait lointaine, abstraite, pas vraiment perceptible.
Quoi. Et en même temps, sur ces trois exemples-là, mais je vais donner la parole à Florian Guettet, ces trois exemples-là, ils ne sont pas du tout dans le même régime.
Non, ni d'image, ni de...
Par rapport à cette thématique du suspens, High Checkpoint, c'est quand même pas du tout la même chose, me semble-t-il, ni que Calais, ni que Fukushima. Et moi, j'ai plus de mal à comprendre le choix des pièces les unes par rapport aux autres. Mais on va continuer la discussion là-dessus, Florian Guettet.
Moi, c'est un peu l'expérience effectivement que je fais de cette expo, de me dire qu'il y a de très belles découvertes, de très belles pièces en général, mais l'articulation entre elles est très difficile à voir. Et effectivement, on décline plusieurs figures de la suspension, du suspens. Alors, ça peut aller sur la transition, l'interstice, l'attente, le figé, etc. Mais on a du mal à suivre finalement un film vraiment tendu. Alors, effectivement, après, si on se pose la question de la suspension, le suspens, c'est justement venir extraire aussi du train en marche. Comme vous parliez tout à l'heure, justement, on n'est pas là-dedans. Donc, je pourrais me dire qu'il y a une forme de cohérence là-dedans. Le problème, c'est vrai que c'est que en termes de, c'est-à-dire qu'à force de mettre des points de suspension, nous-mêmes, on a cette forme d'interrogation. On a un petit peu du mal à savoir quel est le propos. C'est vrai qu'il y a une forme quand même de nivellement de plusieurs formes. Vous parliez effectivement de ce logiciel qui est mis exactement sur le même plan que la vidéo de Mélanie Pavy ou de celle de ce duo de Goutin et Wagon sur la robotisation forcenée, le monde comme entrepôt de livraison, qui est une très belle vidéo en soi. Mais c'est vrai que d'un coup, ça crée un récit comme ça, transversal, dont on n'est jamais vraiment sûr de l'assise ni de la légitimité, parce que on ne sait pas bien en fait vers quoi ça tend et d'où ça part. En fait, cette forme de suspension, c'est aussi à un moment refuser les racines et puis peut-être refuser de tendre vers quelque chose. Alors, ça dit, c'est nuancé par ces trois vidéos-là qui ont quand même une sorte de vision un peu prospective, mais d'une façon générale, c'est vrai que ce qui domine, c'est cette forme de temps présent. Alors, moi, je trouve que quand même, malgré tout, dans ce qu'il y a à mettre au crédit de cette exposition, moi, j'ai vécu un autre rapport au présent. C'est-à-dire que le présent, finalement, en fait, il nous échappe tout le temps et on est toujours dans une forme comme ça d'insaisissable, finalement, par rapport au présent. Le fait de le suspendre, c'est-à-dire à un moment de ne plus le rapporter forcément à un événement passé, à une logique chronologique comme ça vers le futur, fait qu'on y attache un peu plus d'importance et finalement, être en suspens, c'est coller véritablement au présent. Et alors, c'est redoublé par le fait que l'époque elle-même serait en suspens aussi, une forme de suspense. Il y a un doute, il y a des états transitoires, à des états, voilà, une forme de changement de monde qui n'arrive pas, dont on ne sait pas trop vers quoi il doit aller. J'étais notamment touchée par cette, alors par l'histoire, en fait, pas tellement par les œuvres, bizarrement, mais par l'histoire qu'elle raconte. Je cherchais le nom de Debbie Cornwall. Sur ces anciens détenus de Guantanamo, ce que je ne savais pas, qui sont en fait, voilà, plus ou moins retenus de façon arbitraire. Hein, on nous montre bien qu'ils n'ont pas de raison d'être forcément à Guantanamo, qu'ils y ont passé un an, deux ans, trois ans. Et une fois qu'on les a sortis, pour ne pas les renvoyer chez eux, ni même les laisser sur le territoire américain, on les renvoie dans des pays souvent sous-développés, ou en tout cas avec qui on a, les États-Unis ont signé des accords plus ou moins officiels. Et ces anciens détenus se retrouvent, en Slovaquie. En Albanie ou je ne sais où, ils ne savent pas parler la langue, ils n'ont aucun moyen de s'intégrer à la société, ils n'ont pas de papier, évidemment, ils n'ont pas d'existence. Et on a créé comme ça une forme d'humanité qui est apatride, qui rejoue finalement cette forme d'apatridie qui était dénoncée par Anna Arendt pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un moment des gens qui sont hors sol, qui sont complètement déliés, etc. Et la suspension du temps devient la suspension de l'existence. Et là-dessus, c'est peut-être là-dessus que je rejoindrai aussi le propos sur les migrants à Calais. On pourrait parler effectivement de ce checkpoint sur les travailleurs palestiniens. Moi qui dans l'installation est assez sonore aussi, hein, elle prend vraiment beaucoup de place dans notre visite, on entend qu'elle, et puis au début on a une forme de ritournelle assez mécanique, et puis d'un moment, moi, j'ai eu l'image d'un troupeau. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'image mécanique, mais en fait, finalement, on a une sorte d'animalisation, etc. Comme si le fait de se suspendre ou de se refuser la temporalité, de s'inscrire dans une histoire, c'était aussi un petit peu rompre avec son humanité.
Quelques commentaires, encore Yasmine aussi. Non,
enfin, moi, j'ai eu le sentiment, il n'y a pas beaucoup d'œuvres et c'est très bien. Il y en a même pas une quinzaine, je crois. Et moi, vraiment, le rapport qu'il y a entre ces œuvres, pour moi, c'est les différentes écritures aujourd'hui. Comment on peut raconter le monde aujourd'hui et de quelle manière? Alors, vous avez
effectivement c'est raconter le monde. C'est pas tout à fait la question du suspens. C'est plus la question de l'interrogation.
Je me suis pas arrêtée au titre. J'ai vraiment, je me suis laissée porter par les œuvres
et par effectivement le texte qui nous accueille. Ouais. Et, enfin,
Ouais, c'est vrai que je me suis vraiment, j'ai été emportée par les œuvres.
Sans les préciser, ouais.
Et c'est pas l'idée du suspens qui m'a vraiment intéressée, que je garde de cette exposition. C'est ce qu'elles nous disent du monde et comment on peut écrire le monde aujourd'hui, que ça soit par le biais de la fiction, comme on le fait comme le fait Hiwaka pour qui est kurde, hein, c'est un pseudonyme kurde pour raconter cette histoire dont Corinne Rondeau parlait à l'instant. Et la maquette, en fait, qui est filmé de haut, c'est assez intéressant, c'est la maquette de Dresde. C'est une maquette de 50... Elle est énorme, cette maquette. 50 mètres carrés, je crois. Enfin, c'est assez énorme.
Iwaka est lui-même exilé à Berlin.
À Berlin, oui. Ouais. C'est vraiment par ce biais-là, par un biais beaucoup plus classique, comme Paola... j'ai peur de faire une... Yacoub, voilà, avec ses vendeurs de fleurs qui sont des mouchards. Mais ce sont de la vidéo, beaucoup. Mmh. Voilà, et puis le fait de découvrir aussi de jeunes artistes, ou en tout cas de les voir mis en avant, je pense à ce Libanais qui est Rabih Amrouie, qui est aussi...
On voit quand même beaucoup depuis de nombreuses années.
Qu'on voit beaucoup, mais c'est bien
oui,
aussi qu'on...
C'est pas une découverte, pour le coup.
Pour beaucoup de gens, c'est une découverte.
Corinne Rondeau, pour finir.
Oui, je crois que Diane Dufour a tenté de faire un texte, d'imposer son texte, de prendre le risque d'un texte entre effectivement de l'écrit. On n'a pas parlé non plus de Jacques-Henri Michaud avec des mots d'ordre. Il y a un mur. Donc il y a une tentative comme ça de ritournelle à l'intérieur, de se suspendre. Bon, si on lit la citation d'Anna Arendt du début, ce qui est perdu, c'est l'intervalle spécifique et habituellement irremplaçable qui aurait dû se former entre cet homme et ses semblables. On comprend bien que le suspens, c'est quand même justement toute cette inquiétude, cette gravité. Et c'est pour ça que je disais, j'étais contente de voir de la fiction, même si c'est kafkaïen chez Iwaka et Basay Yanader, parce que justement tout le reste est une manière de voir à quel point c'est la question qu'elle pose, si ne plus savoir où se diriger, ne pas trouver sa place, mais c'est peut-être ça le présent, qu'il n'y a plus de place. Il faudrait quand même que les Occidentaux, parce que pour moi c'est un regard occidental, même si je remercie tous les artistes d'être allés sur des places, d'avoir rencontré des gens. Il y a une avocate, la photographe dont vous parliez tout à l'heure, Debbie Cornwall, elle était avocate de droit civique. Elle décide de devenir photographe ou de reprendre la photographie. Donc là on se dit, bon, la justice ne peut plus rien. Donc alors on dit, ok, tous ces gens-là ont pris en jeu le présent pour y aller. Mais à un moment donné, le suspens qu'on nous renvoie n'est jamais qu'un œil occidental sur une situation qui n'est pas occidentale pour la plupart, même si c'est en Occident que se passent les camps de migrants. Leur vie est aussi celle des migrants et pas la nôtre. Et effectivement, ce que je tire de cette expo, c'est que c'est le symptôme d'une impuissance de la représentation occidentale sur qu'est-ce qu'on va faire, parce que le dernier stade, ce sera quand ça va nous arriver pour des raisons algorithmique, par exemple, puisque c'est en jeu dans une vidéo, qui viendra nous sauver? Ah ben, en attendant Godot, premier étage, deuxième étage, premier et deuxième acte.
En suspens, c'est au bal jusqu'au 13 mai. Allez vous faire une idée par vous-même. Et puis, à l'occasion de l'exposition, Shelter Press et le bal coéditent un ouvrage, évidemment, intitulé En suspens. À suivre dans la dispute roman photo et le festival Circulation.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Ah ben on change de genre, hein. On va voir comment aller le monde, c'est quand même surtout du passé, hein, avec cette suite de disputes consacrées ce soir aux arts plastiques et qui nous amène au MUCEM à Marseille pour y découvrir l'exposition Roman Photo, donc une occasion de se pencher sur un objet culturel mal considéré, dont on apprendra au passage, en tout cas moi je l'ai appris, qu'il est né en 1947 en Italie, qu'il a été le plus gros succès éditorial de l'après-guerre, avec un lectorat très majoritairement féminin. Alors les études nous disent que dans les années 60, un Français sur trois lisait des romans photos. L'exposition du MUCEM réunit plus de 300 objets, films, photographies, documents, et puis bien sûr un certain nombre de romans photos. Les commissaires de l'exposition sont Frédéric Deschamps et Marie-Charlotte Calafa, scénographie signée Cécile Degosse.
Je n'ai pas l'âge d'être sage, comme une image, dommage. pas possible.
Synthé. Et on va au MUCEM à Marseille découvrir l'exposition Roman Photo. Yasmine, vous pouvez nous révéler aujourd'hui, Yasmine aussi, que vous avez une très importante collection de romans photos.
Mais j'aurais pu, parce que moi, cette exposition que je trouve absolument euphorisante, mais vraiment, hein, je suis sortie de là, j'étais dans un état extatique. D'abord, ça me permet de faire mon coming out photographique. J'ai adoré les romans photos quand j'étais adolescente.
J'en étais certain.
Pardon à tout, j'achetais tout, nous deux. Ah, j'en trouvais, moi j'ai grandi au Maroc. Ah non.
De quoi?
Moi, elle est pure. Hein.
Arde. Elle est pure. Est-ce que c'est vraiment pur, le roman photo? Le roman photo, c'est l'impur, par définition, quasiment.
Elle est formidable, cette exposition, vraiment.
On se remontait le moral après le bal, donc voilà. Vous prenez le TGV quand il y en a, et vous allez au MUCEM.
Elle est formidable parce que les deux commissaires ont vraiment su trouver la bonne distance pour parler du roman photo, alors que le sujet en général attire soit beaucoup de mépris. Moi, dans l'exposition, il y a une phrase, une citation de Barthes qui dit, nous deux, c'est plus obscène que Sartre, que Sade.
Que Sartre. Oh, ben, c'est vous qui le dites. Hein. Allez, c'est l'heure du lapsus.
Moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment.
Et nous aussi, hein.
C'est votre
lapsus.
Voilà, donc en général, c'est soit ce mépris des intellectuels, des penseurs.
Barthes, c'est tout sauf du mépris sur le roman photo.
Bon, disons
faut
que
lire ce qu'il y a autour. Hein.
Quand même, mais là, oui, mais là, c'était.
Lui, au moins, il le prend comme objet culturel réel.
En général,
réel.
Quand vous parlez du roman
mais
photo,
il y a
beaucoup de mépris. Moi, j'ai adoré cette citation. Et puis, soit on vous en parle avec beaucoup de mièvrerie. Et c'est tout sauf ça dans cette exposition. C'est vraiment tout sauf ça. Elles donnent à voir, d'abord parce qu'elles ont étudié le roman en photo presque avec toute la rigueur scientifique, quoi, en allant chercher toutes les archives, en allant chercher des pièces, en faisant un travail qui n'avait jamais été fait auparavant et en donnant à voir tout ça. Et qu'à travers le roman photo aussi, elle raconte une époque. Vraiment cette après-guerre jusqu'aux années soixante, l'après-guerre, les Trente Glorieuses. Il est beaucoup question
vraiment
des femmes.
Vraiment les Trente Glorieuses.
Oui, vraiment les Trente Glorieuses. Mais enfin, ça commence après-guerre et ça s'adresse à ces femmes qui ont quand même pendant la guerre conquis leurs droits, tout simplement le droit de vote, le droit de travailler, de ne pas devoir à chaque fois en référer au mari. Et ces romans photos s'adressent à elles. Et puis ça raconte aussi l'époque dans tout ce que ça avait, c'est-à-dire la guerre froide, en même temps le poids encore de l'Église à ce moment-là, le poids des communistes. Et là, on voit qu'à chaque fois que ça soit les communistes ou que ça soit l'Église qui dénonçait le roman photo comme vraiment quelque chose de satanique, faisait aussi des romans photos. Alors bien sûr, ceux issus du Parti communiste, on s'aimait sur fond de lutte des classes et de grève, de piquets de grève. Pour les catholiques, c'était encore autre chose. C'est ce qui m'a plu dans cette exposition. Ce que j'ai aimé aussi dans la manière de présenter cette exposition, c'est que le spectateur n'est jamais passif. C'est-à-dire qu'on l'invite à chaque fois. Il y a des écrans tactiles, il y a des carrousels à tourner. Et puis, il y a vraiment des pépites là-dedans, quoi. Vous rentrez, vous commencez par ce film d'Antonioni. Qui est assez unique. Et puis alors moi, quand vous me mettez Robert Capa dans le roman photo, mais que voulez-vous que je vous dise?
C'est la passion au carré. Gardez quelques pépites de côté pour une deuxième prise de parole. Florian Guettet, le roman photo et vous?
Alors, et moi, pas grand-chose, mais j'avais quand même une vision de roman photo par ma grand-mère, qui a acheté nous deux, et donc j'avais le souvenir, c'était à peu près la seule littérature qu'il y avait chez moi, en fait, chez ma grand-mère. Et du coup, je pensais vraiment avoir à faire un objet désuet, vraiment du passé, etc. Et en fait, pas du tout. Vraiment, si j'ai adoré cette expo, bizarrement, même si j'ai pas d'appétence directe pour l'objet, mais finalement, je vais peut-être m'y mettre. Je trouve qu'effectivement, il y a quand même quelques occurrences qui me font très envie. Alors,
on pourrait faire un roman photo avec l'équipe de la dispute.
Ah
non,
oui.
Il y aurait regardez les phrases cultes.
Il y aurait des histoires. Ben, on va en faire des volumes. Je vous préviens. Pardon, Florian.
Non, je vous en prie. L'expo est plutôt bien servie aussi par la scénographie, hein, que j'ai trouvé très fluide. Alors, c'est vrai qu'on y circule un petit peu comme si on tournait soi-même des pages. On est tout le temps effectivement sollicité. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'activité, enfin de l'activation en tout cas de ces protocoles-là. Donc, on n'est pas dans quelque chose de figé, affiché. Ce qui aurait été effectivement regrettable. On voit effectivement que c'est un phénomène culturel très, enfin, mésestimé, sous-estimé. Je crois que c'est la première de l'exposition du genre. Hein.
C'est la
vu,
première.
En tout cas. Ah, ouais. Et c'est très bien qu'elle se retrouve là dans le musée des arts populaires du Mucem, mais on la verrait aussi finalement dans d'autres.
Moi, j'ai pas été à Marseille. J'espère qu'elle va tourner.
Dans d'autres institutions, ouais, bien sûr. D'autant qu'on voit
ça
qu'elle
fera un tabac partout, hein. Enfin, partout en Méditerranée, en tout cas. Parce que c'est très méditerranéen, on l'a pas dit au départ.
C'est très lié à la culture catholique. C'est ce qu'ils disent aussi, que finalement, la culture...
Je pense pas ça. Vous voyez, moi qui ai grandi au Maroc, je vous assure qu'au fin fond de Marrakech, on trouvait des romans photos, on trouvait des vieux nous deux, ouais. On se jetait dessus et on avait, moi je me souviens avec mes cousines, passer des journées à regarder ça et je vous assure que quand vous avez des phrases comme là, dans les chaumières restent et l'amour passe, ou un truc comme ça, mais nous, ça nous... Oh, ça, on a
ça
vécu un
rêver.
Truc fort hein.
Ouais.
Non, c'était surtout par rapport contre l'esprit protestant et anglo-saxon qui était un peu plus sur le
qui est moins branché représentation, de toute façon, on va
exactement,
dire.
Exactement, évidemment. Donc on voit en fait que c'est un phénomène global qui touche, alors qui touche beaucoup de gens, qui touche toutes les classes aussi, qui fait venir les stars. On voit Sophia Loren qui a effectivement démarré là-dedans, mais on voit aussi Johnny Hallyday, Adamo. Ah, oui. On voit Klaus Kinski quand même dans un roman.
Il a tout fait, donc.
J'étais pas préparé à ça. Non, autant Rick Azaray, je m'y attendais un peu, autant Klaus Kinski, ça m'a fait un petit choc quand je l'ai vu.
Il a tout fait, Klaus Kinski.
À bout de souffle.
À bout de souffle, effectivement, qui a été repris 10 ans après la forme cinématographique par son photographe de plateau, et qui est diffusé dans le Parisien Libéré à l'époque. Donc on a ces archives là assez extraordinaires et puis ensuite on a toutes ces déclinaisons quoi, c'est-à-dire qu'après ça s'internationalise, ça rentre dans différents genres, effectivement le genre sentimental devient aussi le genre plus érotique, pornographique avec Super Sex notamment, le genre satirique avec Les Nuls, Fuite Glaciale, Charlie Hebdo ou Harakiri évidemment. Le policier, le sadique, l'horreur hein, avec notamment Killing qui devient satanique, qui a été censuré, interdit, et là on voit un très beau documentaire d'ailleurs voilà, où on interroge un enfant dans les années 70 qui a lu Satanique et on cherche un peu à le culpabiliser d'avoir lu Satanique, dire mais c'est bien quand tu le vois étrangler les femmes, etc. pour montrer à quel point finalement ces romans photos qui ont l'air inoffensifs en apparence, en fait ont une grande influence sur ça. Et c'est vrai que même Jean 23 quand même sort un encyclique hein, où il parle du roman photo pour le dénoncer, donc ça va jusque dans les sièges papaux.
Le siège papal.
Ou le siège papal.
Pas, il me semble hein, qu'il n'y en a qu'un, mais peut-être que je me trompe.
Mais personne.
Bon.
Vous me perdez, bon, vous voyez.
Oui, j'imagine un roman photo avec deux papes, enfin un truc.
Non, ce qui est très intéressant aussi dans cette exposition, c'est qu'il y a des mises en espace, notamment ce salon rose qui est en fait au centre de l'exposition, qui en fait représente cet espace domestique dans lequel on est tous, qui est vraiment consacré au lecteur et pas simplement à l'objet même du roman photo. On voit une photo originale anonyme qui s'appelle Chaleur d'été, où on voit les premiers en fait lecteurs de nous deux, donc quand il est créé en France dans les années à fin des années 40, et elle est agrandie hein, aussi dans la même pièce pour pouvoir coller avec une commande cette fois qui a été faite à Thierry Bouette pour mettre en scène des lecteurs d'aujourd'hui de nous deux, pour bien dire que cette image, enfin que cette pratique là de paralittéraire existe encore. Et on est très troublé parce qu'en fait, quand on rentre dans cette série de 9 photos, on ne sait pas en fait si ce sont des fictions ou si ce sont des témoignages. Et le doute est maintenu par la mise en scène qui est elle-même une mise en scène digne en fait des romans photos. Donc on a, et puis on découvre finalement que ce sont finalement des histoires d'amour tout à fait réelles, mais par des auteurs qui sont passionnés finalement de ces histoires-là. Donc il y a toujours comme ça une sorte d'aller-retour entre le phénomène de société et puis le phénomène artistique. Quand Antonioni effectivement fait un documentaire, bah, c'est aussi pour rappeler que les origines de, ou les modèles en tout cas du roman photo, c'est aussi le néo-réalisme italien. Alors, pas forcément pour la recherche esthétique, mais en tout cas pour l'efficacité narrative, avec voilà, cette recherche du cadrage assez parfait, de la lumière assez parfaite. Et finalement, il y a une opération comme ça de revalorisation d'un objet souvent mésestimé.
Corinne Rondeau va maintenant nous parler de l'exposition Roman Photo au MUCEM à Marseille.
Ouais, bien, très bien. Non, elle est très bien parce qu'en fait, elle pose elle nous pose aussi des vraies questions entre le texte et l'image. Que peut devenir aussi une chose aussi populaire qu'a été le roman photo jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, ils vont jusqu'à Plus belle la vie. Faut pas le négliger. Donc moi j'ai trouvé l'exposition.
Il y a une version roman photo ?
Non, du tout. Mais c'est l'idée du feuilleton, d'accord, dans la mesure où c'est croisé entre le
cinéma.
Non, ouais. Mais parce qu'en fait, effectivement, le cinéma nourrit le roman photo. Enfin, les débuts, puisqu'en fait, il y avait des feuilletons qui paraissaient dans la presse.
Des films.
Et ensuite, ils étaient donnés pour les projections. Et c'était les gens à la campagne qui n'avaient pas accès au cinéma qui pouvaient suivre le film à distance par ces éléments. Et donc, on peut voir dans l'exposition des choses très bien, c'est que comme il y a une ouverture sur historique, on voit en fait l'importance du texte au début, et puis petit à petit, le texte va disparaître au profit de phylactères très simples, avec la phrase efficace, la pose stéréotypée, tout le monde comprend impeccablement. Et voilà, le temps, c'est aussi cette espèce de transversalité des médiums, entre, ça commence, bon, il nous le montre, hein, entre la partie, vous avez dit néo-réalisme, le cinéma, 47, l'Italie, mais il y a les images d'Épinal, il y a le journal illustré, 18e, 19e, et puis le cinéma 1919 en France, les mystères de New York, qui serait, je dirais, mais comme ils le disent, que c'est l'avènement finalement du ciné-roman et du roman photo. Et du photo, du roman photo. Bon, bref, non, parce qu'il y a. Les noms se passent les uns des autres, il y a ciné-roman.
Oui.
Et donc on voit qu'on est en train d'ouvrir quelque chose entre la lettre et l'image, et ce rapport-là ensuite va être pris en charge par des professionnels. Vous avez parlé d'acteurs, mais aussi des chefs opérateurs, mais aussi des photographes de plateau qui vont notamment 9 ans après la sortie de Costier. Un bout de souffle, qui deviendra dans le Parisien libéré, on aura plusieurs dizaines d'épisodes d'À bout de souffle, voilà, avec Jane. Pas Manson.
Cyberg
et Belmondo. Donc, et ça, effectivement, on est vraiment tiré, et on voit ensuite les critères internationaux, puisqu'il y a des photos, des romans photos de tout le bassin méditerranéen, Israël, la Grèce, la Turquie, effectivement, pas les pays un peu anglo-saxons, parce qu'ils sont justement protestants. Mais, et les Espagnols nous font des photomontages, des photoromans d'enfer. J'avais l'impression déjà de voir du Almodovar sur la dimension graphique qui est exceptionnelle, qui est réjouissante. On se dit, mais les types racontent, il y a une histoire d'une fille avec un téléphone qui lui dit je sais pas quoi, elle est avec son téléphone tout autour, c'est écorché comme ça, là, le papier, enfin pas le papier mais le graphique. Le graphisme, mais c'est très stimulant parce qu'on voit effectivement, non pas des nations, mais on voit le traitement de l'histoire. Et effectivement, l'image, ça on le voit à la fin de l'exposition, ça c'est formidable parce que vous avez parlé d'Harakiri, merci professeur Choron, que je remercierai toujours de ma vie, puisque moi j'étais lectrice dans ma famille d'Harakiri, puisque tout le monde a dit son truc.
Le roman photo amène à l'intime.
En tout cas,
bah, si, complètement.
C'est certain que, et d'ailleurs, Frédéric Deschamps, l'une des commissaires, qui commence d'ailleurs avec une question assez banale, puisqu'elle découvre dans une benne des centaines de nous deux, elle dit, mais ça existe encore, comme quoi on peut faire des bonnes expositions avec des questions aussi simples, et avec une curiosité, où elle part tout de suite en Italie.
Ouais.
Et à la fin, justement, cette question de l'image et du texte est reprise, mais autrement, puisqu'il va y avoir Monori et Jacques Monori et Franck Venaille qui vont faire deux. Alors, peinture, mais aussi photo, avec des textes, une histoire de deux filles en plus. Donc, c'est, non, mais c'est vraiment formidablement fait. Et à côté, on a Derrida qui va écrire pour Marie-Françoise Plissan, Droit de regard, où il n'y a plus de texte. Et justement, comme il rappelle la jetée de Chris Marker en 62, qui utilise le mot de photoroman, et c'est justement une image et déjà une narration en soi, et qu'elle ouvre des récits. Et donc, justement, c'est. Je veux dire, cette exposition est formidable dans ce rapport d'images et de textes. Et il faut absolument aller la voir et la creuser de partout.
Et pour ce faire, on n'a que jusqu'au 23 avril pour aller au MUCEM à Marseille voir un roman photo. Moi, je milite quand même.
Ouais. Non, il est dépliant pour aide. Il y a des vertus pédagogiques qui ont été faites et contre l'analphabétisme notamment.
Ouais. Bon, contre l'analphabétisme et lutter contre le sida.
La lutte contre le sida. Donc il faut que cette exposition voyage, hein, je dis ça de façon intéressée. Alors sinon on peut toujours se rattraper avec le catalogue de l'exposition coédité par Textuel et MUCEM qui lui, j'ai eu l'occasion de le voir par contre, donne encore plus envie et donne quand même aussi plein de belles matières.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute art plastique, on va être un peu rapide pour parler du festival Circulation 104 à Paris, dédié à la jeune photographie contemporaine en Europe, 8e édition pour ce festival qui présente une cinquantaine d'artistes avec un tropisme vers l'Est cette année, Russie, Ukraine. Et puis à nouveau, Circulation qui investit 13 stations de métro, de RER et des grilles de la gare de l'Est. Qui va commencer la dispute consacrée à Circulation avec quelques commentaires glanés sur les réseaux sociaux. Et ça tourne.
Commence par un message d'Alex Andre sur Facebook pour qui le festival Circulation est un peu décevant cette année. Mis à part quelques pièces d'artistes invités, ce qui l'a frappé, c'est surtout le manque de recherche sur la matière photographique et le caractère très cheap et stéréotypé des travaux présentés. Il retient néanmoins les séries d'Alessandra Callo, Guillaume Hébert et surtout Sandrine Marc, avec ses images de traces de projectiles qui l'ont fait rêver. Et je poursuis avec un message de Livier Étoile sur Twitter. Un festival plus vaste cette année, une scénographie plus recherchée. La diversité des sujets permet de trouver ses coups de cœur, ses préférences entre la poésie, le réalisme et la provoque. La pluralité des techniques fascine, l'instinct artistique aussi, une exposition qui provoque une émotion intense, qui subjugue ou qui dérange, mais ne laisse pas insensible. Arnaud.
Bon, ben voilà deux avis un peu contrastés. Alors c'est toujours compliqué d'évoquer un festival comme celui-ci, parce qu'il se donne comme festival, il s'agit d'un état des lieux, d'une certaine photographie aujourd'hui en Europe, plutôt jeune création. Donc il ne s'agit pas d'avoir un avis d'ensemble sur le festival, mais peut-être de pointer celles et ceux qui vous ont plus intéressé, Florian Guettet.
Oui, c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire ressortir une unité, il n'y a pas de transversalité non plus. Parfois, il y a des jeux comme ça, ils sont un peu tirés par les cheveux de dialogue. En revanche, c'est pas une exposition panoramique, quoi. Donc à nous de circuler, évidemment, dedans, quitte à se perdre, évidemment. Parfois, on s'arrête. Et puis, donc effectivement, moi, dans cette profusion, il y a quelques projets qui ont vraiment retenu mon attention. Pour moi, la star, c'est la Finlandaise Iu Susiraja. Qui avec ses objets indisciplinés, qui se prend en fait dans son univers quotidien. Alors on sent bien, enfin en tout cas, c'est pas forcément la qualité esthétique des photos, mais alors le projet. Moi j'aime beaucoup cette femme qui semble prisonnière de son espèce domestique. Et qui décide de réemployer en fait tous des objets du quotidien qui ne sont pas du tout adaptés ni à sa situation ni à son corps, etc. Donc ça nous donne des choses assez absurdes comme Des talons aiguilles dans des doggy bags scotchés à ses jambes, un balai coincé sous ses seins, un cintre qui vient soutenir son bras, etc. C'est une forme de réification très drôle. Moi, j'avais déjà vu son travail par un article, et j'étais très content de le voir en vrai. Et puis, il y a des sujets aussi qui sont assez étonnants. Par exemple, Murray Ballard sur la cryogénie, dans un série qui s'appelle The Prospect of Immortality, avec des bacs à fleurs numérotés, avec voilà une sorte de stockage des corps et de toutes ces histoires de gens qui veulent absolument survivre à leur propre mort. Ou alors cette série, alors effectivement Guillaume Hébert, moi j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont des photos urbaines plutôt de lieux, on va dire un peu déclassés, urbains, un peu entre la ruine, entre le deux, déchet, ouais. etc. Et derrière, le fond est occupé par des tableaux plutôt classiques de paysages, genre romantiques, etc. On voit bien en tout cas cette culture-là, pour montrer ce décalage des représentations entre l'ancien et le nouveau monde, que j'ai trouvé vraiment très très réussi. Alors effectivement, après, qu'est-ce qu'on attend en fait de jeune création? Un peu plus d'expérimentation formelle. Là, moi, j'ai trouvé que sur l'expérimentation, j'étais un petit peu déçu des formats employés. Puis sur la vision prospective, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de suspens, hein, pour reprendre notre premier sujet, mais parce que il y a une forme de blocage. Par exemple, la jeunesse russe, s'amuse, mais qui n'a plus de vision d'avenir. Et on retrouve ça un petit peu tout le temps. Et puis certains quand même sujets dont on nous rebat assez les oreilles. Alors, se tenir debout à la frontière israélo-palestinienne, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de fois, donc ça me désole un peu de voir des jeunes ne pas arriver à trouver leur propre angle d'attaque sur ces sujets-là, même s'ils sont sensibles, même s'il faut toujours en parler, il faut peut-être aussi en renouveler les moyens, en tout cas de se le représenter.
Corinne Rondeau.
Oui, peut-être aussi de dire à ceux qui les choisissent d'empêcher de les exposer ces sujets-là, qui peut-être d'autres sujets, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est encore à nouveau en suspens cette idée de la représentation occidentale sur il faut parler de ça, etc. Là où se trouvent les injustices, les destructions, les situations tendues et en suspens. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a pour moi beaucoup de redites. Il y a un manque de plasticité de recherche plastique, mais hallucinante. J'ai trouvé ça d'une pauvreté pour la plupart. J'en étais attristée pour eux parce que je trouve que ça relevait pas vraiment d'une pensée, là pour le coup, comme l'a dit l'auditeur, je crois, mais d'une pensée vraiment de construction de l'image, de la matière photographique, où je me suis dit, mais... Et puis, systématiquement, des affichages sur les murs, une représentation, un peu d'installation entre la photo, puis l'autre image, le cadre, etc. Parce que il y a aussi l'idée qu'on va travailler sur le motif, il y a toute une série justement sur le souvenir des images, je ne sais plus quoi, avec la photographie. Je prends la photo d'un iPhone sur lequel il y a une image, ou alors je fais des collages de photos sur des photos. On se dit, mais écoutez, par pitié, quoi, on a quand même une histoire sur photomontage, on a quand même une histoire sur le collage. Arrêtez de nous faire des trucs cheap, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment creux. Alors, je me suis quand même arrêtée. Alors, je suis d'accord sur Ballard, là. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série parce que, pour le coup, c'est documentaire. En même temps, il n'en rajoute pas une couche. Et on passe du côté de le quotidien de certaines personnes et de la folie furieuse. Et c'est fait avec leur espace. Et là, d'un coup, je suis confrontée à une altérité. Et je me dis, la photo, c'est pas juste me flatter tout le temps de ce que je veux reconnaître sur les quatre coins du globe. Et j'ai beaucoup aimé, je crois, les Russes. Parce que les Russes et la Russie, parce qu'il y a un Espagnol qui fait aussi de la photographie sur une île isolée, près du cercle polaire, à 4000 km de Moscou. Vous ne savez pas quand vous êtes dans la ville. Et cette zone est blanche. Et j'ai trouvé qu'un type du Sud aille là-bas pour justement nous rappeler quelque chose d'une sorte de suspension. Là, pour le coup, on est en plein. Ben, merci finalement, Diane Dufour et le bal. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ces photographies de Russes. D'abord, Arnold Weber, parce qu'il y avait des textes sous ces images, ces photos noires et blancs, les gens sont déchirés, mais déchirés. Et il y avait un texte qui avait « Tu auras toute ta vie pour essayer de comprendre quelque chose à ta vie. En revanche, le peuple ferme dans 5 heures. » Et ça, je trouve que c'est génial, parce qu'on est vraiment dans un temps, pour le coup, de comment je fais l'image par rapport à ce que je vis. Et une autre, dans une architecture, le mec, ça fait 10 ans qu'il fait la photo en Russie, dans des architectures, on se dit « Mais les Russes vivent dans quelle époque ?» Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quel monde, ouais.
Alors moi qui n'aime pas voyager, voyagé. Je me suis dit, mais je vais partir en Russie.
Ah, voilà, au contraire, on vous donnera un... Bon. On prendra des nouvelles régulièrement. Yasmine Youssi, le festival Circulation.
Mais écoutez, c'est effectivement, il y a toutes les qualités et tous les défauts du genre de pour ce type de manifestation. C'est-à-dire que ça donne une visibilité à des jeunes. Pour ça, c'est bien. Elle dresse un panorama, je trouve, assez juste de ce qui se fait aujourd'hui en photographie et quand Corinne pointe la pauvreté esthétique, le manque de, le fait que ça soit toujours les mêmes motifs qui reviennent, le fait d'avoir l'impression d'avoir déjà vu ça 100 fois. Oui, c'est vraiment pour moi ce qui pêche en photographie aujourd'hui. Elle offre quelques belles découvertes, mais ça reste inégal. C'est des travaux d'étudiants. On a l'impression que, oui, c'est beaucoup de suiveurs, qu'il y a les jeunes peinent, comme vous le disiez, Florian, à trouver des angles d'attaque. C'est pas toujours très concluant. Ce qui domine, c'est l'installation. Et l'installation, on fait de l'installation pour l'installation qui ne se justifie pas. Par exemple, il y a cette jeune fille, Anna Ehrenstein, qui fait tout un travail sur les femmes albanaises qui surjouent leur féminité jusqu'à la vulgarité. Ok, il y a les photos, il n'y a même pas besoin des tentures supplémentaires avec le logo de Mercedes.
On les a vues 3 millions de fois aussi.
On les a vues 3 millions de fois et puis rajouter l'installation, l'installation photographique à la Wolfgang Tillmans. Lui, il a fait ça, c'était très bien, on en a assez de voir ça. Et ce qui est fou, c'est que comme dans la... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comme dans la photographie aujourd'hui, ce qui finalement est le plus original, c'est le travail sur les photos vernaculaires. Et là, il y a plusieurs travaux sur... pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont ces travaux sur des photos qui ont été récupérées dans les marchés aux puces, auprès de collectionneurs, des photos de monsieur et madame tout le monde, des photos d'albums de famille. Et que là, on a l'impression de sortir enfin du millième gros plan, de la millième installation déjà vue, d'un ersatz de l'école de Düsseldorf. Il y a là, notamment, il y a ce collectif Live Wild qui a été créé par Camille Lévesque, qui fait un ensemble sur la figure du père dans un des couloirs du 104, au, je ne sais plus quel étage du bâtiment E, F ou je ne sais plus, qui travaille. Alors on commence avec vraiment la photo de famille du père des années 50 et puis c'est passionnant. Il y en a une autre, il y a tout un travail aussi d'une autre fille du collectif Ina Lungin, The Price of Black Life in America, qui est réalisée après Ferguson, où là les visages sont rayés, effacés. Il y a aussi une Allemande, je crois, Fiena.
On va faire le catalogue, Yasmine.
Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant pour moi.
D'accord.
L'heure tourne. D'accord.
C'est noté.
Mais au moins voir ça.
Florian avait un post-scriptum extrêmement court.
Juste pour Camille Lévesque, j'ai l'impression que ça fait partie aussi de ces jeunes photographes qui nous disent qu'il n'y a plus rien à montrer. Bah. Donc ils nous présentent la famille standard, universelle. Comme juste à côté, on a un mariage anonyme, oui, où tout le monde est censé se retrouver, etc. Moi, j'étais plus retenu quand on nous montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, les prisons roses par Angélique Stély, ou justement ces non-lieux donc en haut de la Russie. Ou alors, il y a Dominika Kezika qui a parlé aussi de cette ville. On n'a pas le droit de naître ni de mourir.
Bon, c'est pas mal aussi. Et les Sisters de Lukasz Wierzbowski, vous ont pas intéressé? Moi, je cite aussi, même Lara Gasparato. Et j'étais très surpris, j'ai cru que c'était Dorothée Smith, mais c'est une Smith, mais elle s'appelle pas Dorothée.
Les aveugles.
Susanna Baker Smith, qui est invitée par la commissaire
ça,
Susan Bright.
Les blind?
Ouais.
Non, pas les aveugles.
Regardez le catalogue.
Dans ce...
Et on en discutera après l'antenne, puisqu'on va bientôt la rendre. Festival Circulation jusqu'au 6 mai au 104, catalogue édité par le Bec en l'air. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec Camille André qui nous a rejoint pour nous rappeler la question d'hier au soir et nous donner déjà sa réponse, Camille.
Lors de quel événement fut exposé pour la première fois Guernica? Et la réponse est l'exposition universelle de Paris en 1937.
On fait gagner ce soir des invitations pour le film The Rider de Chloé Zhao, Grand Prix du Festival de cinéma américain de Deauville qui est sorti dans les salles aujourd'hui. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, quel célèbre photographe américain s'est-il approprié les cow-boys des publicités de Marlboro, les retouchant à peine et les mettant à son nom?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter et podcaster nos émissions. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, 19h, dispute littéraire avec Elisabeth Philippe, Laurent Georgesco, Jean-Christophe Brianchon. À notre sommaire, une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Little, Être de René Belletto et Le corps des bêtes d'Audrey Villelmy.